portant une question pour ta fille.
Quelle est la signification de 18?
De?
18.
18.
Du chiffre 18. Ça dépend de comment on le lit. On peut le lire 10 plus 8. On peut le lire 9 plus 9. On peut le lire 12 plus 6. Et chacun de ces lectures a un sens différent. Si nous prenons 10 plus 8, ça veut dire quelque chose d'assez immobile. Parce que 10 est une perfection statique. Quelque chose qui est arrivé à sa perfection et qui s'arrête là. Et 8 est une double colocture. C'est-à-dire quelque chose qui est encadré, entouré, délimité et qui naturellement s'arrête là. Alors si nous mettons 10 et 8 ensemble, ça fait vraiment quelque chose qui peut être un accomplissement mais qui est terminé. Au contraire, si nous prenons 9 plus 9, 9 est le procédé de la création. Pas la création elle-même, mais son procédé. Et 9 plus 9, c'est un procédé de création qui continue et suit un autre procédé de création, c'est-à-dire une création qui est duelle et qui implique l'idée qu'elle continue indéfiniment, qui fait que les deux sens sont presque contradictoires. Et si on prend 12 et 6, alors ça devient quelque chose de très bien. 12, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est le nombre de la perfection dans la conception et la création. Et 6, c'est le nombre de la création nouvelle. Alors, si vous mettez 12 et 6 à la fois, vous avez vraiment quelque chose de très remarquable. Maintenant, on peut en avoir d'autres. Mais ça devient un peu plus compliqué. Dix-huit lui-même, en tant que 18, c'était le chiffre de la conscience dans son effort de réalisation matérielle. La conscience essayant de se réaliser matériellement, de s'exprimer matériellement. Alors maintenant, tu es pourvu. De la majorité, la première majorité, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, on a une volonté propre, on a le droit d'avoir une volonté propre au point de vue social. C'est évidemment un point de départ très intéressant.
Les chiffres de chacun, est-ce que ça a une circonstance différente pour chacun?
Si on veut la donner, oui. Si on n'y pense pas, ça ne signifie rien du tout. C'est l'importance qu'on lui donne qui compte. Les chiffres sont une façon de parler. C'est un langage, comme toutes les sciences, tous les arts, tout ce que l'homme produit, c'est toujours une façon de parler, c'est un langage. Si on adopte ce langage, ça devient vivant, expressif, utile, comme nous avons besoin de mots pour nous faire comprendre généralement. Malheureusement, c'est sujet à toutes sortes de confusions, mais enfin, nous ne sommes pas arrivés encore à l'état où on peut communiquer dans le silence, ce qui serait évidemment un état très supérieur. Eh bien, si on veut donner aux chiffres un sens dans sa vie, ils peuvent vous révéler un nombre considérable de choses. Mais c'est comme ça. C'est comme l'astrologie. Si on veut étudier la relation entre son existence et le mouvement des astres, on peut aussi trouver toutes sortes de renseignements utiles. C'est une façon de connaître, pas autre chose. Un procédé. La connaissance vraie est au-delà des mots, au-delà des systèmes, au-delà des langages. Elle est dans une identité silencieuse. C'est au fond la seule qui ne se trompe point. Quoi d'autre?
Il faut dans la prière que tu nous as donné, c'est toi, c'est le Saint-Esprit qui a écrit quelque chose en sanskrit.
C'est sur Bido qui a écrit un mantra.
Pourquoi est-ce qu'on a écrit comme ça?
Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Peut-être pas qu'il te le dirait. C'est une évocation. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as trouvé quelqu'un pour te l'expliquer, non? Ah, c'est la première chose que tu aurais dû faire. Demander quel était le sens de ces quatre mots. La transcription en dessous, il n'y en a que deux. Il avait commencé à transcrire et puis son papier, c'était sur un tout petit bout de chiffon de papier. Et il n'y avait plus de place pour mettre tout, alors il s'est arrêté. Tu as lu? Tu ne sais pas lire le sanskrit? Alors maintenant, il faut que tu trouves quelqu'un pour te montrer comment le lire et puis pour te donner la signification. Et puis après, tu me demanderas pourquoi il l'a écrit. Pas maintenant. Calipuja, je distribue toujours les fleurs de l'amour divin parce que Kali est la plus aimante de tous les aspects de la Mahashakti. C'est l'amour le plus actif et le plus puissant. Et c'est pour ça que chaque année, je distribue ces pétales de l'amour divin le jour de Kali. Et alors, naturellement, c'est l'explication de pourquoi ces fleurs ont été choisies pour exprimer l'amour divin. L'explication suffisante.
Qui était cet homme? Qui était cet homme, celui de qui tu as parlé?
Qui te dit que c'est un homme? Je n'ai dit ni que c'était un homme, ni que c'était une femme. J'ai eu soin de mettre seulement un être divin. Qui? C'est une histoire préhistorique. Alors, je ne peux pas trouver de renseignements dans ce qui est écrit nulle part. Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de questions à poser sur ce que nous avons dit aujourd'hui.
Non, est-ce que l'état personnel est toujours égoïste?
N'est-ce pas? Voilà, le français il n'est pas d'une langue aussi riche qu'on pourrait l'espérer. En anglais, il y a deux mots. Il y a selfish and egoist. Et ça n'a pas le même sens. Vous savez la différence en anglais, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas-là, c'est l'égoïsme dans le sens de égoïsme en anglais. Ce n'est pas dans le sens de selfish. on peut avoir un effort qui ne soit pas du tout selfish et qui est pourtant égoïste, parce que du moment que c'est personnel, c'est égoïste. Ça veut dire que c'est basé sur l'ego. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est ni généreux, ni compatissant, ni désintéressé, ni que c'est pour des fins personnelles. N'est-ce pas comment étroite. C'est pas pour ça. Ça peut être pour une œuvre très désintéressée, mais tant qu'il y a un ego là, c'est égoïste. Et tant qu'il y a le sens de sa personnalité à soi, c'est naturellement une chose égoïste. C'est basé sur la présence de l'ego. Et ça doit durer assez longtemps, parce que ça doit durer jusqu'à ce que l'individualité soit complètement formée, qu'elle ait atteint un certain état de perfection individuelle. Alors, la présence de l'ego n'est plus nécessaire, mais pas avant. Qu'on soit arrivé au maximum de développement individuel. C'est vraiment une toute petite besoin. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et quand on est arrivé à la perfection de son développement, qu'on est un être individuel qui est vraiment personnel, c'est-à-dire qui a toutes les caractéristiques de quelque chose qui se distingue de tous les autres. Parce qu'en principe, il n'y a pas deux individualités semblables dans le monde. Alors, quand on est arrivé à exprimer ce que l'individualité que l'on est exclusivement, représente exclusivement dans la création universelle, là on est prêt pour que l'ego disparaisse, mais pas d'autre. Ça demande un certain temps, pas mal d'efforts, une éducation un peu complète. Mais on peut être très unselfish longtemps avant d'être prêt à ne plus avoir d'ego. Depuis des années, depuis que je traduis de l'anglais en français, c'est-à-dire, il y a très longtemps, il y a quelque chose comme 30 ans que ça, peut-être 35. J'ai toujours essayé de trouver deux mots pour dire ça, pour faire une différence. Je n'ai pas trouvé encore. Parce qu'en français, on ne peut pas fabriquer des mots. C'est pas permis, c'est ça qui est malheureux. En anglais, vous faites autant de mots que vous voulez, et s'ils sont jolis et bien faits, ils sont acceptés. En français, à moins que ça ne soit dans le reconnu par l'Académie française dans son dictionnaire, on vous dira ça, c'est pas correct. Alors, je n'ai pas encore
Un homme riche veut avoir plus de richesse. Un homme qui est savant veut avoir plus de richesse. Écoutez, n'est-ce que cela manque qu'il peut chercher le divin?
Un homme quoi?
Un homme qui est riche. Il n'est jamais satisfait. Il veut avoir plus de richesse.
Oui.
Un savant aussi veut avoir plus de connaissances.
Oui.
Est-ce que c'est la main qu'il cherche le divin?
Il est à la recherche d'un absolu dans la vie. C'est évident, peut-être que c'est contigu, je ne sais pas. De l'amour des richesses, de l'amour du pouvoir, de l'amour de la connaissance, on ne parle de l'amour divin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne parle pas de goûter une ambition ou un désir ou une aspiration, même on parle de goûter la présence divine. C'est tout à fait différent, il n'y a aucune analogie. Que je ne saisis pas très bien le sens de ta question. Je crois que tu confonds le divin avec la croissance et l'augmentation, l'accroissement. Non? Peut-être au mieux le progrès. Mais ce n'est pas la même chose. Progrès est peut-être la base sur laquelle le monde actuel a été construit. On peut le prendre comme ça, mais ce n'est pas le divin. Qu'est-ce que tu essayais de dire?
Chaque être a une soif pour quelque chose.
Tu la soif pour quelque chose, c'est le divin. Non. Ça peut être tout simplement un désir. Comment est-ce que la soif par quelque chose peut être le divin? Je vois bien ce que tu essayes de dire obscurément, mais vraiment tu ne le dis pas. C'est-à-dire que cette flamme d'inspiration intérieure, c'est ça que tu appelles le divin. Cette flamme d'aspiration intérieure qui ne s'éteint jamais, qui brûle toujours, qui brûle de plus en plus. Ce que dans l'Inde on appelle l'Agni, n'est-ce pas? La volonté de progrès, le pouvoir d'aspiration. C'est ça que tu appelles le divin, c'est un aspect du divin, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le divin. C'est seulement un aspect, c'est-à-dire une manière d'être divin. Qu'est-ce que c'est cette question? Je ne comprends pas très bien. L'évolution passée.
Oui, la nature présente.
Et la nature présente, mais c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes.
C'est vrai, parce que
la porte conceptive par laquelle l'esprit s'approche de lui
doit nécessairement varier
suivant
l'évolution
passée
et la nature présente de chacun.
Oui, c'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que ça peut être l'évolution d'un divin antérieur. Et la nature présente, c'est-à-dire la nature du corps actuel, ça détermine l'approche que l'on a du divin. On peut prendre un exemple très simpliste. Si on est né dans une religion quelconque, tout naturellement, le premier rapport d'approche du divin sera sous cette religion-là. Ou bien, si dans des vies antérieures, on a passé par un certain nombre d'expériences qui déterminaient la nécessité d'un autre genre d'expérience, tout naturellement, on suivra le chemin qui vous conduit vers ces expériences-là. N'est-ce pas, la vie de l'être psychique est faite d'expériences successives dans des existences physiques successives. Alors, on peut, n'est-ce pas, le dire d'une façon un peu enfantine ou romanesque. Vous avez un psychique qui, pour une raison quelconque, s'est incarné de façon à pouvoir faire toutes les expériences que donne la royauté, le pouvoir suprême. Après ça, il a fait son expérience, il a eu ce qu'il voulait. Il peut, avant de quitter le corps, décider que dans la vie suivante, il naîtra dans des conditions obscures, parce qu'il a besoin d'avoir les expériences que l'on peut avoir dans une condition modeste et avec la liberté que l'on éprouve quand on n'est pas quand on n'a pas de responsabilité ou n'est-ce pas de responsabilité comme celle qu'ont les chefs d'État par exemple. Alors tout naturellement, dans sa vie suivante, il naîtra dans certaines condition qui remplira son besoin, et c'est selon cette expérience-là qu'il fera son approche du divin. Alors en plus, il est le produit de l'union de deux natures physiques, n'est-ce pas, et quelquefois de deux natures vitales. Le résultat de ça est plus ou moins une sorte de mélange, n'est-ce pas, entre ces natures. Mais ça produit une tendance que l'on appelle un caractère. Eh bien, ce caractère le rendra propre à un certain champ, à une certaine catégorie d'expérience. Alors, avec ce qui a été déterminé, décidé dans les vies ou la vie antérieure, et puis le milieu dans lequel il est né, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles son corps actuel s'est formé, son approche et sa recherche du divin seront selon une ligne définie qui lui est propre et qui naturellement n'est pas du tout la même de son voisin ou de n'importe quel autre. Je disais tout à l'heure, chaque individu est une manifestation spéciale dans l'univers. Par conséquent, son chemin véritable doit être un chemin absolument unique. Il y a des analogies, il y a des ressemblances, il y a des catégories, il y a des familles, il y a, n'est-ce pas, des églises idéales aussi, c'est-à-dire qu'il y a une certaine façon collective d'approcher le divin qui produit une sorte d'église, non pas matérialisée, mais dans un monde plus subtil. Il y a toutes ces choses-là, mais pour le détail du chemin, le détail du yoga, ça sera différent suivant chaque individu, nécessairement, et conditionné physiquement par sa construction présente, corporelle présente, et vitalement, mentalement et psychiquement certainement par les existences intérieures. C'est-à-dire, si c'est prédéterminé que ces plans supérieurs... Mais tenez, n'est-ce pas, encore pour prendre un exemple tout à fait ordinaire, là, qui est très partiel et très superficiel. Vous êtes né dans l'Inde. Étant né dans l'Inde, vous êtes né dans une certaine attitude religieuse et philosophique, n'est-ce pas? Mais si, pour une raison quelconque, vous voulez vous libérer de cet atavisme et de cette influence, si vous vous mettez à suivre, à étudier, à pratiquer la religion ou la philosophie d'un autre pays, vous pouvez changer les conditions de votre développement intérieur. C'est un petit peu plus difficile, c'est-à-dire que ça demande un plus grand effort de libération, mais c'est très loin d'être impossible. Il y a en fait beaucoup de gens qui le font, qui aiment à se libérer de ce qui leur provient de leur naissance présente par un goût spécial quelconque. Ils aiment à chercher ailleurs ce qu'ils ne pensent pas pouvoir trouver chez eux. Et de cette façon-là, vous changez complètement les conséquences de votre naissance. maintenant vous pouvez me dire que ce goût du nouveau ou de l'inconnu peut vous venir d'une vie antérieure. Ça se prouve. Mais ça dépend de ce qui domine dans votre être. Si c'est le résultat des vies psychiques antérieures et des résolutions psychiques, ou si c'est la conséquence immédiate de votre construction actuelle. Contradictoire? Comment contradictoire? Avec l'influence des influences précédentes? C'est jamais contradictoire, ça ne peut être que complémentaire. Ça, c'est parce qu'on a... Quand les choses vous apparaissent comme contradictoires, c'est toujours parce que vous êtes resté à un plan trop bas. Si vous savez monter quelques échelons d'échelle, toutes les contradictions disparaissent. Tout devient complémentaire.
Ce qui gêne le passé, c'est la nature.
Hein?
Ce qui me gêne, le passé dans le plan.
Ce qui vous gêne, ça gêne beaucoup de gens. Je n'ai pas trop passé. Ça fait partie de la libération. La libération s'obtient par les austérités. Nous savons ça. Mais il y a certaines austérités que les gens se refusent à pratiquer. Alors, ça. On parle beaucoup trop. C'est comme ça qu'on fait le tonnerre. Voilà, mes enfants, c'est tout. Qui a une question très intéressante à poser? Pour poser une question intéressante, il faut commencer par penser d'une façon intéressante.
Qu'est-ce que tu appelles une question intéressante?
Ah. Une question qui mérite d'être répondue. Quelque chose qui suscite la possibilité d'une réponse nouvelle et d'une ouverture sur un champ de connaissances nouveau. Par exemple, quand vous me demandez l'explication d'un mot, je trouve que ce n'est pas une question intéressante parce que vous n'avez qu'à ouvrir un dictionnaire. Quand vous me demandez la réponse à une question qui a été faite par Cherubindo ou par quelqu'un d'autre, dans des livres qui sont publiés, ça ne me paraît pas une question intéressante parce que vous n'avez qu'à ouvrir le livre et lire. Mais quand, par exemple, vous avez une expérience personnelle que vous ne comprenez pas très bien et pour laquelle vous avez besoin d'éclaircissement, alors votre question peut devenir intéressante. pas de questions intéressantes. Alors, personne n'a une question intéressante, suivant la définition qui vient d'être donnée.